Salutations à tous mes frères et sœurs qui ont soif de la présence de Dieu et qui ont décidé de la chercher coûte que coûte. Nous avons dans nos méditations précédentes pris le temps de contempler l'amour de Dieu. Et en contemplant cet amour de Dieu, nous avons réalisé maintes et maintes fois que nous sommes appelés à faire un sacrifice pour répondre à cet amour qui nous contraint. L'amour de Dieu est un mystère. Nous est déclaré dans la parole de Dieu comme un mystère qui cependant est révélé aux saints. C'est un mystère qui est révélé à ceux qui ont un cœur contrit, un cœur brisé à la vue des choses qu'ils ont commises, qui sont contraires à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Et en voyant ces choses, le cœur contrit, conscient de l'existence, de la présence et du regard de Dieu, s'humilie, et dans cette humiliation, Dieu révèle son secret à ceux qui le craignent, ou c'est-à-dire en d'autres termes, qui l'aiment à la vue de l'amour si grand et si indicible qu'il leur révèle et qu'il nous révèle à tous, qui que nous soyons. Maintenant, nous savons que ce genre de langage aujourd'hui est très étrange pour la majorité des personnes habitant sur cette planète. Et pourtant, ce n'est qu'une seule planète. Combien existe-t-il de planètes dans l'univers? Ou plutôt, la question devrait être, combien de planètes existe-t-il dans l'univers où habitent des êtres qui n'ont pas été contaminés par le péché comme nous? Qu'est-ce qu'une seule planète dans tout cet univers composé d'innombrables planètes qui donnent allégeance au Seigneur des Seigneurs? Ça vaut le coup de mettre les choses en perspective, n'est-ce pas? Et donc, dans ce monde dans lequel nous vivons, la parole de Dieu nous déclare qu'il existe seulement deux chemins. Et pour faire court, la réalité est qu'il existe une large voie, une grande route, une autoroute, si vous voulez bien, d'un côté, et de l'autre côté, il existe un sentier étroit. C'est le chemin sur lequel Christ appelle ceux qui décident et choisissent de le suivre. C'est le sentier sur lequel marchent les disciples de Jésus. Une autoroute et un étroit sentier. Et en gardant ces choses à l'esprit, maintenant nous réfléchissons aux paroles que l'apôtre Paul nous adresse dans son épître aux Romains, au chapitre 12, versets 1 à 2. Et là, il dit, il leur parle par à la vue de cet amour que ces chrétiens à qui il s'adresse contemplent déjà, qu'ils connaissent, cet amour qui les a renversés, bouleversés, qui les a brisés et pour lequel ils ont décidé qu'ils offreraient toute chose et qu'ils compteraient toute chose comme une perte en comparaison avec cet amour. À la vue de tout cela, maintenant il leur dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et maintenant, il élargit cela. Pour pas que l'on reste dans le brouillard sur ce que cela veut dire de s'offrir en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Parce qu'on peut toujours sortir toutes sortes de conclusions personnelles qui sont très subjectives. Mais l'apôtre Paul, ici, élargit la pensée du Saint-Esprit qui lui est révélée par l'inspiration et il dit, en continuant, et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc il leur a annoncé qu'ils sont appelés à s'offrir en sacrifice vivant et maintenant il déclare, il leur demande de maintenant ne pas se conformer au présent siècle ou, selon la Bible King James, à ce monde, ne pas se conformer à ce monde, mais à être transformé par le renouvellement de notre esprit ou de notre intelligence pour que nous puissions éprouver, c'est-à-dire réaliser par une expérience personnelle que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est-à-dire que nous avons besoin, en tant que chrétiens, de ne pas nous conformer à ce présent siècle ou à ce monde, mais à être renouvelés dans notre esprit, parce que si nous ne sommes pas renouvelés dans notre esprit, mais que nous sommes conformés et que nous nous conformons au monde, alors nous serons incapables de discerner et de réaliser de manière personnelle et intime que la volonté de Dieu, ce qu'il demande de moi, est bel et bien bonne, agréable et parfaite. Parce que si je suis conformé au monde, qu'arrive-t-il à mon esprit? Je deviens incapable de discerner et d'éprouver que la sainte volonté de Dieu, sa volonté parfaite, est bel et bien bonne. Je serai tenté et je deviendrai enclin à croire et à trouver la volonté de Dieu bien cruelle. C'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte avec force les croyants à ne pas se conformer au monde, de peur qu'ils commencent à regarder Dieu de travers et à estimer que sa sainte parole, telle qu'il la relève dans sa parole de Dieu, est maintenant difficile pour eux. Difficile, trop difficile. La seule raison pour laquelle un chrétien peut être amené à considérer que ce qu'il lit dans la sainte parole de Dieu n'est pas adapté à ses désirs ou à ses desseins, à ses plans, ses projets, c'est parce qu'il a commencé où il s'est complètement conformé au monde. Et maintenant, même en tant qu'adventiste du septième jour, il est très possible que nous fassions, vu de l'extérieur, toutes les choses qui sont justes, mais qu'à l'intérieur, il y ait cette rancune. Et nous estimons que la volonté de Dieu pour moi n'est pas vraiment bonne et parfaite. Nous trouvons à redire à ce que Dieu a dit. Et pourquoi cela? D'où vient ce malaise? Cela vient de la conformité à ce monde. Cela vient que nous sommes mis à faire comme le monde fait, à agir comme le monde agit, à parler comme le monde parle, à converser comme le monde converse, à se moquer comme le monde se moque. Et notre esprit a été transformé, mais dans le sens inverse. Mais ici, l'apôtre Paul appelle à la transformation vers le haut, pas à l'assimilation vers le bas. Parce que ce qui vient du bas, ce sont les désirs de la chair. Et ils sont nombreux, comme nous allons le voir bientôt, et ils ne créent que la violence, le vice, la haine et toutes sortes de mauvaises choses que l'on peut voir aujourd'hui manifestées dans l'être humain, dans ce monde, cette planète. Et d'ailleurs, en parlant de ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, il y a quelque chose que nous trouvons dans les paroles de Jésus que nous voulons maintenant contempler attentivement. Ces choses que Jésus annonçait aux disciples et qu'il prophétisait sont dignes de toute notre attention aujourd'hui. Sans plus tarder, nous voulons y aller, c'est dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Versets 37 à 39. Et Jésus disait, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vient et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Qu'est-ce qu'il nous dit ici pour nous aujourd'hui? L'avènement du Fils de l'homme, le retour de Jésus-Christ, les jours directement précédant ce retour seraient semblables aux jours de Noé. Et comment étaient les jours de Noé? Qu'est-ce qui caractérisait les jours de Noé? Cette période avant le déluge, cette ère des antédiluviens, nous lisons, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. c'est ce qui caractérisait les hommes, les habitants de la terre au jour de Noé. Et ici, on veut lire des paroles de l'esprit de prophétie qui nous permettent de définir quelle est la signification de ces paroles. Ça se trouve dans Our High Calling, à la page 79, paragraphe 3. Nous lisons. L'une des caractéristiques les plus marquées des habitants de la terre au jour de Noé était leur profonde mondanité. Manger et boire, acheter et vendre, se marier et donner en mariage étaient rendus par eux les buts suprêmes de la vie. Et maintenant, l'esprit de prophétie nous donne une explication de pourquoi ces choses qu'ils pratiquaient étaient mauvaises. Nous voulons savoir, pour que nous puissions reconnaître que cet esprit qui régissait les habitants de la terre au jour de Noé est également l'esprit qui anime les habitants de la terre aujourd'hui. C'est ce que nous voulons voir. Et nous continuons donc de lire. Ce n'est pas un péché de manger et de boire, mais l'accomplissement d'un devoir. Si, toutefois, ce qui est légitime n'est pas porté à l'excès. Donc il s'agit d'un excès, un terrible excès, de sorte que Jésus pouvait dire que cette manière de vivre des antédiluviens serait retrouvée dans la manière de vivre des habitants de la terre juste avant son retour. Et il disait que cette manière de vivre et de raisonner vis-à-vis de leur vie et des buts qu'ils estimaient être les buts de leur vie, cette manière de vivre a fait qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Donc cette façon de porter les choses légitimes à l'excès est un réel danger pour nous aujourd'hui. L'esprit de prophétie nous dit que ce n'est pas un péché de manger et de boire, mais que c'est l'accomplissement d'un devoir. Si toutefois ce qui est légitime n'est pas porté à l'excès. Donc cela veut dire, si nous prenons les paroles de l'inspiration au mot, que le fait de porter ce qui est légitime à l'excès nous met en danger de ne pas être prêt pour le retour de Christ. C'est une chose sérieuse. Elle est si sérieuse qu'il y a peu de choses aussi importantes pour nous en ces derniers jours. Le monde est ivre, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas être comme ceux qui sont ivres, des hommes des ténèbres, mais que nous devons être de la lumière. De la lumière. Mais qui est la lumière? Nous voulons poursuivre maintenant. Nous continuons dans cette citation où nous lisons: Dieu a lui-même institué le mariage lorsqu'il donna Ève à Adam. Toutes les lois de Dieu sont merveilleusement adaptées à la nature de l'homme. Mais le péché des antédiluviens consistait à pervertir ce qui était en soi légitime. Il pervertissait ce qui était légitime. manger, boire, se marier, acheter, vendre, construire, bâtir, planter des vignobles, etc., etc. Il pervertissait ce que Dieu avait donné comme légitime. Mais cette perversion n'était pas anodine. Cette perversion a fait venir sur eux le déluge universel, frères et sœurs. C'est une chose sérieuse à considérer. Christ a dit que si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, alors nous ne pouvons pas le suivre. Et ici, il déclarait et annonçait et prophétisait qu'un danger guettait ceux qui professaient son nom au tout dernier temps. Ce danger de porter à l'excès les choses qui sont en soi légitimes. Je continue. Il pervertissait les dons de Dieu en les utilisant pour assouvir leurs propres désirs égoïstes. Leur propre désir égoïste. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on prenne du temps pour évaluer notre position actuelle, chers frères et sœurs. Existe-t-il des désirs égoïstes que nous assouvissons en pervertissant les dons que Dieu nous fait? Je nous laisse considérer ces choses attentivement. Je pourrais rentrer dans les détails, mais est-ce bien nécessaire si l'Esprit de Dieu est accueilli dans nos cœurs pour sonder les profondeurs de notre être? Y a-t-il des désirs égoïstes qui me font dépenser d'une manière que Dieu n'approuve pas? Ai-je des désirs égoïstes qui m'empêche de voir la volonté bonne de Dieu? Je continue. Une dévotion et un amour excessif pour ce qui est en soi légitime cause la perte de plusieurs milliers d'âmes. La vigueur intellectuelle qui devrait être entièrement consacrée à Dieu est souvent dévouée à des questions de moindre importance. Nous avons une vigueur intellectuelle, une capacité à réfléchir, à méditer, mais le problème, c'est que Dieu ne s'interpose pas lorsque nous permettons à ses facultés intellectuelles de s'attarder sur des questions de moindre importance. C'est un réel problème, frères et sœurs, que j'avais voulu aborder avec nous aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est si facile de renier la vérité de Dieu. Et si je l'avais fait, je pourrais être aujourd'hui à une chaire, peut-être. Mais la réalité est que j'ai choisi d'annoncer la pure parole de Dieu, mais malheureusement, cette pure parole de Dieu est très souvent ingrate à nos sens personnels et nous choisissons de tourner nos oreilles vers des fables agréables qui grattent nos oreilles et qui satisfont nos désirs d'entendre des choses qui vont dans notre sens. Mais le problème avec cette mentalité, c'est qu'on n'a plus envie de lire la parole de Dieu réellement, parce que rien dans la parole de Dieu ne va dans notre sens. Parce que si nous vivons selon la chair, alors la parole de Dieu sera une reproche constamment pour nous. Mais nous voulons que Dieu nous reproche et nous réprimande pour que nous puissions nous mettre de son côté et devenir justes par sa grâce. Car que gagnerons-nous, frères et sœurs, si nous avons toutes les choses du monde, mais que nous n'avons pas l'approbation de Dieu? Donc la vigueur intellectuelle qui devrait être entièrement consacrée à Dieu est souvent dévouée à des questions de moindre importance. Mais on nous dit, il nous faut toujours prendre garde de ne pas porter à l'excès ce qui, correctement employé, est légitime. Et là, la prophétesse nous dit, beaucoup, beaucoup d'âmes se perdent en se livrant à des choses qui, dirigées correctement, sont inoffensives, mais qui, pervertis et détournés, deviennent coupables et démoralisantes. Elle dit, beaucoup, beaucoup d'âmes, des milliers et des milliers d'âmes se perdent de cette manière. Des milliers d'âmes se perdent comment? Nous voulons savoir, frères et sœurs. Nous voulons examiner ce qui est écrit et prendre le temps. Quand bien même cela nous prend du temps. Aujourd'hui, nous avons du temps. Demain ne nous est pas promis. Des milliers d'âmes se perdent en se livrant à des choses qui, dirigées correctement, sont inoffensives, mais qui, perverties et détournées de leur usage normal, deviennent coupables et démoralisantes. On mange, et ce n'est pas mal de manger, mais si nous mangeons à l'excès, alors la condamnation de Dieu est sur nos âmes. Parce que ce qui était légitime est devenu par notre excès coupable et démoralisant. C'était la condition des choses du jour, au jour des antédiluviens, au jour de Noé. Maintenant, après avoir lu ce que Jésus annonçait sur ce que serait la condition du monde, des habitants du monde à la toute fin du monde avant son retour, nous voulons maintenant lire dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé. Est-ce que nous voyons, frères et sœurs, la solennité de ces paroles-là pour nous aujourd'hui? Vous savez, j'ai longtemps réfléchi à l'impact de ces paroles sur notre existence aujourd'hui. Si vous regardez, ne serait-ce qu'autour de vous, ne voyez-vous pas les paroles de Jésus déjà accomplies à la lumière de ce qui était écrit ici dans Genèse 6, verset 5, que l'imagination, toute l'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que mauvaise en tout temps. Et Dieu doit avoir ce spectacle devant les yeux. C'était le spectacle qu'il avait devant les yeux du temps de Noé avant le déluge. Et ce spectacle, cette vue abominable de ce que l'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que mauvaise en tout temps, l'a poussé à se repentir d'avoir fait l'homme sur la terre. Ici, le sens du repentir de Dieu n'est pas le même sens du repentir de l'homme, mais c'est un regret profond, une souffrance plutôt, à la vue de ce qu'est l'homme qu'il a créé à son image, de ce qui est devenu l'homme qu'il a destiné à une éternité avec lui. Il est maintenant avili, dégradé, corrompu, et Dieu est un étranger pour lui de telle sorte que l'imagination, toute l'imagination des pensées de son cœur n'est que mauvaise en tout temps. Et maintenant, nous voulons pointer du doigt à notre prochain et dire « Malheureux homme que tu es, toute l'imagination des pensées de ton cœur est mauvaise en tout temps. » Mais le problème, c'est que quand bien même nous sommes enclins, il nous semblerait que nous sommes justifiés dans une telle attitude, cette leçon ne nous est pas donnée pour faire cela. Où se porte aujourd'hui notre imagination? C'est cela que nous voulons considérer réellement. Et c'est cela, c'est ce genre de méditation qui porte fruit, qui porte du fruit. Parce que cet esprit de condamnation, de toujours vouloir trouver ce qui ne va pas, dans la personne en face de moi, quand bien même c'est vrai que cela ne va pas, mais cet esprit de toujours vouloir se concentrer sur ce qui ne va pas, sur mon prochain, nous rend incapables de réaliser ce qui ne va pas en moi. Et donc la question c'est vers où tend notre imagination? Quelle est l'imagination de mon cœur? Et vous savez, ça me fait beaucoup réfléchir cela parce que aujourd'hui, ce problème de l'accaparement de l'imagination par l'ennemi des âmes est un problème qui devient si grand et immense, qu'il devient un obstacle véritable à notre sanctification. Et pour soutenir les paroles que je viens de prononcer, nous allons lire ensemble dans le livre vers Jésus à la page 110, paragraphe 1. Nous lisons. Quand votre esprit s'attarde sur le moi, il est détourné de Christ, la source de toute force et de toute vie. C'est pourquoi l'effort constant de Satan consiste à garder notre attention détournée du Sauveur et ainsi à empêcher l'union et la communion de votre âme avec Christ. Donc ne serait-ce que maintenant, nous avons déjà un indice sur ce qui pourrait nous permettre de trouver des réponses à notre dilemme qui est devenu maintenant omniprésent dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Quand l'esprit s'attarde sur le moi, ou en d'autres termes, quand je m'attarde sur moi-même, mon esprit se détourne de Christ, et Christ est la source de toute force et de toute vie. Donc, que m'arrive-t-il lorsque mon esprit est détourné de Christ? Ma force et ma vie me sont ôtées, retirées, et je suis affaibli. Et c'est pourquoi l'effort constant de Satan consiste à garder votre attention détournée du Sauveur et ainsi à empêcher l'union et la communion de votre âme avec Christ. Vous savez, frères et sœurs, j'ai beaucoup réfléchi à cette déclaration. Et j'ai beaucoup, pour être honnête, lutté avec la réalité qui est annoncée ici. Nous avons un besoin vital de nous unir et de communier sans cesse avec Jésus. Parce que il est la source de toute force et de toute vie, donc que m'arrive-t-il quand je ne m'unis pas et que je ne communie pas avec lui? Que m'arrive-t-il, frères et sœurs? Je perds cette force et cette vie. Elle m'est soutirée par un cambrioleur. Et son nom, c'est Satan. Et son effort constant est de m'empêcher de m'unir et de communier à mon Sauveur. Et comment le fait-il? En détournant mon attention de mon Sauveur. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Parce que l'esprit de prophétie jette davantage de lumière sur cette question vitale et capitale pour nous en tant que chrétiens en ces derniers jours. Nous lisons « Les plaisirs du monde, les soucis, les perplexités et les peines de la vie, les fautes d'autrui, ou bien vos propres fautes et vos imperfections, vers l'une de ces choses, ou vers elles toutes, il cherchera à détourner votre esprit. Eh bien, si vous avez suivi, l'esprit de prophétie nous donne ici une liste des choses auxquelles il nous faut prendre sérieusement garde. La liste est exhaustive et Dieu nous l'a donnée pour notre bien. Et quand bien même nous nous sentons condamnés par elle, l'important est que nous ne détournions pas nos regards et notre concentration de cette aide, de cette assistance inspirée. Frères et sœurs, c'est important. Et quand bien même des milliers se détournent de la vérité qui leur fut autrefois agréable, nous voulons choisir d'accepter la vérité et de l'embrasser quand bien même elle nous accuse et nous condamne. Parce que nous avons besoin qu'elle nous condamne pour nous faire ressentir que nous avons besoin de Christ, et alors nous courrons vers lui et nous trouverons en lui un refuge, un ami. Et il nous consolera quand nous aurons cherché auprès de lui la consolation. Et là, il sera pour nous la source de notre force et la source de notre vie. Et ça, cela sera quand nous aurons sérieusement pris en compte cette liste suivante que je lis maintenant, que je relis maintenant. Premier élément, les plaisirs du monde. Alors, qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours? Nous ne voulons pas nous concentrer sur une théorie. Et vous savez, j'ai vu des adventistes pendant plusieurs années se concentrer sur la théorie. La théorie, la théorie, la théorie. Et leur théorie avait beau être bonne et correcte, le problème, c'est que leur théorie n'avait pas été introduite dans leur vie. Et moi aussi, je dois admettre que dans ma propre existence chrétienne, il est arrivé de nombreuses fois, trop nombreuses, que en recevant la théorie, en acceptant la théorie, en contemplant la théorie, je n'avais pas assimilé la théorie dans sa réalité, dans l'expérience vivante que Dieu nous donne en parallèle avec la théorie de la vérité. Mais nous, ce que nous voulons, c'est pas simplement la théorie, mais nous voulons l'expérience que Dieu donne en parallèle avec cette théorie. Je dis que Dieu donne parce qu'il est très possible qu'en sortant des conclusions qui ne sont pas celles de Dieu, nous aboutissons à une expérience qui n'est pas celle que Dieu veut nous donner parce que nous avons mal compris la parole de Dieu. Donc nous voulons la théorie correcte et nous voulons également l'expérience vivante de Jésus-Christ. Et ça, cela vient en devenant conscient des stratagèmes et des artifices de l'ennemi qui nous sont ici précisés. Donc, le premier élément, c'était les plaisirs du monde. Donc voilà, vous êtes là et votre journée s'écoule, disons normalement. Votre journée peut-être consiste à une journée de travail. Si c'est en tant que mère, elle consiste peut-être à une journée de labeur dans le foyer. Ou quelle que soit la journée, c'est une journée chaque journée est une journée où il nous faut prendre notre croix. Il n'existe pas une journée où Christ ne nous a pas appelés à renoncer à nous-mêmes. Donc, la journée dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous la vivez, elle se déroule, et dans cette journée, vous réalisez que des plaisirs de ce monde se présentent à votre esprit. Et ces plaisirs sont plausibles pour vous. Parce que ils viennent selon vos propres convoitises, comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1. Nous n'y allons pas, mais dans Jacques chapitre 1, on nous dit que l'homme est tenté par ses propres convoitises. Et Dieu ne tente personne. Donc cela veut dire que si des choses se présentent à votre esprit et que vous savez que ce n'est pas la volonté de Dieu, et que ces choses sont aussi en harmonie avec vos convoitises, alors vous êtes certain d'une chose, Dieu n'est pas en train de vous tenter. Donc il n'y a rien du genre de « Oh, mais Dieu m'a présenté ces choses, donc peut-être qu'elles sont acceptables ». Non, rien de tout cela. Dieu ne tente personne, mais chaque homme est tenté par ses propres convoitises. C'est important que nous soulignions ces choses-là et que nous gardions ces choses-là à l'esprit. Les plaisirs du monde se présentent à vous. Et que faites-vous ? Nous y reviendrons après. Donc ça peut être les plaisirs du monde. Quels que soient ces plaisirs, il nous faut discerner et examiner ces choses qui se présentent à notre esprit, frères et sœurs. C'est important que nous fassions cela parce que nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et donc nous devons examiner nos pensées et savoir si elles sont de la foi ou si elles sont de la chair. Ces pensées viennent-ils de l'Esprit de Dieu ? L'Esprit de Dieu me les communique-t-il ? Ou me viennent-elles de ma chair qui a été piquée par le monde et le diable ? Le deuxième élément, les soucis. Donc si vous avez vu que les plaisirs du monde se sont présentés à vous, mais que vous avez dit « arrière de moi Satan, arrière de moi », dans votre cœur, pas besoin de le crier, pas besoin de faire un spectacle, dans votre cœur. Et si j'ai dit cela, et que j'ai repoussé le diable, et que j'ai obtenu une victoire, il n'en a pas fini. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens croient que c'est parce qu'ils ont résisté à une, alors ils ont résisté à toutes. Mais non! Parce qu'il vient par un autre angle, et qu'arrive-t-il? Les soucis, les perplexités et les peines de la vie. Ah! Et maintenant, vous avez dit, Seigneur, tu seras mon plaisir. Tu seras mon refuge. Mais maintenant, d'autres choses se présentent à vous. Les soucis, les perplexités et les peines de la vie. L'angoisse maintenant menace de vous étreindre et de vous incapaciter. L'angoisse par les soucis, par les perplexités, les choses qui vous rendent perplexes. Et les peines de la vie, les choses qui vous attristent. Peut-être c'est la façon dont les gens vous traitent parce que vous choisissez le sentier des disciples de Jésus-Christ. Ou peut-être c'est parce que vous avez perdu des choses. Le deuil vous attriste. Et ces choses, Satan les appuie sur notre esprit pour détourner notre esprit et nous empêcher de communier avec Jésus. Donc c'est le deuxième point. Le deuxième point qui comprend plusieurs points. Mais après, si nous disons, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter, ça appartient à demain et tu prendras soin des choses de demain. Et le Seigneur est ma part dans ce monde. Et le Seigneur prendra soin de moi, et je chercherai le royaume de Dieu, et toutes ces choses me seront ajoutées. Et vous avez une victoire, et la foi prend le dessus dans votre vie, mais l'ennemi n'en a pas fini avec vous. Sachons-le, frères et sœurs, prenons en compte cette liste de l'esprit de prophétie. Quel est le troisième point? Les fautes d'autrui. Si vous avez obtenu une victoire sur ces tentations à penser aux plaisirs du monde, des plaisirs qui sont divers et variés, et que vous avez également obtenu une victoire sur les soucis, les perplexités et les peines atroces de la vie, que vous avez mis votre foi en Jésus, que vous lui avez donné votre cœur et lui avez dit « Seigneur, tu t'occuperas de tout cela. Je ne veux pas m'en inquiéter. » Et que vous avez saisi et regardé dans la parole de Dieu et que vous avez réclamé ses promesses. Maintenant, les fautes d'autrui se présentent à votre esprit. Parce que vous avez obtenu une telle victoire que maintenant, le diable se dit « Ah, mais j'ai quelque chose d'autre dans mon carquois. » Les fautes d'autrui, cela veut dire que maintenant que vous avez obtenu de telles victoires et que vous avez l'impression que vous êtes un chrétien si élevé et si réussi, maintenant vous allez être tenté à regarder d'en haut les autres et à discerner chaque chose qui ne veut pas avec eux. Et vous allez lire les déclarations de Jésus dans Matthieu, chapitre 24, verset 37, et vous allez le dire, ces gens, ils sont comme les antédiluviens, etc., etc., etc. Vous allez dire, ces gens, ils s'adonnent à la chair, etc. Oh, mais cet adultère, oh, mais ce fornicateur, et ça n'en finit plus. Et là, maintenant que nous écoutons la parole de Dieu, nous voulons réaliser pour la prochaine fois que cela se présente à notre esprit que nous sommes en train d'être tentés. D'être tentés à nous laisser être détournés vers les fautes d'autrui. D'être tentés à laisser notre esprit s'attarder sur les fautes d'autrui. Donc maintenant, nous choisissons non. Ne jugez pas, car par le jugement que vous jugez, vous serez également jugé. Nous disons, Seigneur, tu juges. Tu es le juge. Je ne suis pas juge. Et nous nous souvenons des paroles que Jésus a lui-même prononcées. Priez pour vos ennemis. Et nous avons compassion, et la compassion que Dieu a pour nous nous anime désormais, et nous commençons à raisonner autrement. Et nous pensons à cet amour de Dieu, et nous nous souvenons que Jésus a dit « Aimez votre prochain », et qu'il nous a appelés à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc ces choses-là nous permettent d'obtenir une victoire encore une fois. Mais maintenant, c'est au tour de vos propres fautes et de vos propres imperfections de servir de tentation contre vous. Maintenant, l'ennemi va appuyer sur vous le sentiment de culpabilité pour toutes les choses que vous avez commises qui sont mauvaises. Et ces choses vont vous étouffer. Et que dit l'esprit de prophétie? Ne vous laissez pas tromper par ses artifices. Un grand nombre de personnes vraiment consciencieuses et désirant vivre pour Dieu sont trop souvent amenées par lui à s'arrêter sur leurs propres fautes et faiblesses. Et en les séparant ainsi de Christ, il espère remporter la victoire. Donc c'est son dessein de nous séparer de Jésus. Et maintenant que nous avons vu toutes ces choses et que nous avons pris le temps, nous avons examiné et nous avons reçu des conseils. Maintenant, à la lumière de ces choses, on veut se souvenir. La prochaine fois que cela se présente à nous, de pouvoir discerner chacun de ces aspects vers lesquels nous serons tentés à porter notre attention. Les plaisirs du monde, les soucis, les perplexités, les peines de la vie, les fautes d'autrui, ou bien nos propres fautes et nos imperfections. L'ennemi va chercher à détourner notre esprit vers ces choses. Mais nous ne voulons pas nous laisser tromper par ces artifices-là. Il y a maintenant quelque chose qui attire notre attention dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont ces choses-là qui sont actives dans le monde aujourd'hui. Et si nous examinons attentivement, nous verrons que c'est à chaque fois ces choses-là qui nous font obstacle. Mais nous lisons que ces choses-là ne viennent pas du Père, mais qu'elles viennent du monde. Et qu'est-ce que c'est? La convoitise de la chair, donc les plaisirs du monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et tout ça, c'était contenu dans cet élément des plaisirs du monde. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et l'apôtre nous dit, et le monde passe, et sa convoitise, cela passe. Ces choses nous semblent tangibles. Elles nous semblent être quelque chose qui restera. Notre nature humaine fait que nous avons l'impression que ces choses sont censées qu'elles font sens à nous et que cela semble acceptable pour nous de regarder ces choses, de les observer, d'y réfléchir. Parce que si vous êtes une personne religieuse, alors l'ennemi choisira ses tentations et les adaptera à vos croyances. Et c'est pour cette raison, malheureusement, que tant de personnes sont amenées à croire qu'ils ont une merveilleuse expérience chrétienne, alors qu'en réalité, ils sont en train de se faire tirer par la langue, comme un âne devant qui la carotte est placée. Ils ne discernent pas, ils ne comprennent pas que leur vie fonctionne selon les désirs de la chair. C'est sérieux, frères et sœurs. Au jour de Noé, à quoi pensez-vous que ressemblaient ses habitants? Et je vais vous le dire tout de suite. C'était des hommes de haute stature. Ils étaient très probablement beaux. Ils avaient beaucoup de sagesse. Ils étaient extrêmement intelligents. Leur mémoire était incomparable à celle des hommes de notre génération présente. Et pourtant, ils ont été ensevelis par les eaux. Les eaux du déluge ont emporté ces êtres magnifiques parce que leur sagesse était une folie devant Dieu, et parce que leur imagination de leur cœur était mauvaise en tout temps. Et Dieu s'est repenti qu'il avait fait l'homme sur la terre. Et s'il n'en avait été ainsi que pour eux, ça ne serait pas aussi tragique. Mais la triste réalité est que cette même mentalité qui les animait alors est maintenant la mentalité, l'esprit qui anime les hommes et les femmes de cette dernière génération. Et vous savez, lorsque Jésus marchait en triomphe vers Jérusalem, il s'est arrêté et il a regardé. Et alors que ce que les hommes voyaient semblait n'être que réussite, accomplissement humain et élévation, le Fils de Dieu discernait la ruine. La ruine. Et l'esprit aujourd'hui nous contraint pour que nous n'ayons pas part à la ruine qui est imminente. Nous lisons que le monde et sa convoitise passent, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voulons boire, frères et sœurs. Nous voulons boire et respirer la vie que Dieu nous insuffle dans sa parole. Et quand nous écoutons et que nous tendons l'oreille et que nous ouvrons nos cœurs à l'amour que Dieu nous communique, aujourd'hui, il nous parle au plus profond de notre âme et nous donne les réponses dont nous avons tant besoin. Allons, parce que ce qui est écrit ici, que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement et que nous ne devons pas aimer le monde, et les choses qui sont dans le monde, ce n'est pas juste une froide injonction, ce n'est pas juste un avertissement froid, une interdiction froide et légaliste. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Et vous savez, moi-même, il faut l'avouer, j'ai été trop souvent animé par cet esprit légaliste qui veut dire ce qui est juste et ce qui est mal, et dire ce qui est juste et ce qui est mal aux personnes qui font ce qui est mal, et leur dire ceci et cela. Et nous croyons que simplement parce que nous disons ce qui est juste et ce qui est mal, et que nous présentons aux hommes la volonté de Dieu, alors ils vont se convertir. Non, ce n'est pas ça ce qui arrive dans la réalité. Dans nos esprits, dans notre imagination, dans nos fausses conclusions, oui, peut-être. Mais dans la réalité, ça ne se passe jamais comme ça, frères et sœurs. Et j'ai dû moi-même réaliser cela en devant faire face à la dure réalité que Dieu se présente à nous, non pas qu'il cache sa vérité, non pas qu'il cache ses commandements, mais il se présente à nous d'une manière qui est toute particulière. La manière dont Dieu se présente à nous est toute particulière, frères et sœurs. Avez-vous considéré la manière dont Dieu s'est présenté à vous quand votre cœur s'est brisé sur le rocher et que vous avez choisi que la croix serait votre part sur la terre? Avez-vous considéré, frères et sœurs, ou avons-nous oublié ce qui nous a menés à la lumière? C'est important que nous laissons l'Esprit de Dieu sonder à l'intérieur de nous. Parce que lorsque nous faisons cela, nous lui permettons d'enlever ces écorces qui croissent si facilement autour même du cœur qui a été une fois régénéré par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est patient, et non seulement cela, mais son amour nous contraint. Et son amour vient nous chercher dans nos profondeurs. L'amour de Jésus vient là où nous nous sentons déplorablement séparés. Et comment vient-il à nous? Comment vient-il à nous, frères et sœurs? Comment Jésus se révèle-t-il à nos cœurs brisés, pleins de regrets et d'amertume et séparés de l'espérance? Nous le lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou la puissance d'être fait enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus, qui est la parole, a été fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cette parole qui est éternelle, qui était avec Dieu et qui était Dieu, est descendue jusqu'à nous. Dieu est venu nous visiter parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour nous d'être délivrés de ce monde, de ses convoitises et de son orgueil. Et il ne nous dit pas juste de ne pas aimer le monde, mais il se présente à nous et il descend jusqu'à nous et il vient aux siens dans le monde et il est rejeté par les siens. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais lui, il est venu éclairer nos âmes et manifester la grâce et la vérité de Dieu. Nous montrer l'amour de Dieu. Et cette parole qui nous fait vivre et qui nous sauve de ce monde, nous la trouvons dans le psaume 40, versets 12 à 14. Et ce psaume 40, c'est un psaume des souffrances de Jésus-Christ. Et parce qu'il sait, quelles sont nos souffrances, et quelles sont nos langueurs, et quelles sont nos expériences ? Il est venu dans la chair, dans notre chair de péché. Il a souffert ce que nous souffrons. Et lorsque nous ressentons cette incapacité à résister au monde parce que le monde est devenu si omniprésent avec ses voies, ses coutumes, ses manières, ses habitudes. Et lorsque nous nous sentons oppressés et désespérés, il se présente à nous ici dans le psaume 40 qui est un récit de ce que lui a enduré. Et il dit au verset 12, « Toi donc, ô Éternel, ne me ferme pas tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Car des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les voir. Elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête. Et le cœur me manque. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, accours à mon aide. » Il était là, dans notre expérience. Et il a dû ressentir ce que nous ressentons pour que nous, nous ayons un soutien et un support lorsque cela vient nous décourager et que le cœur nous en manque. Et il dit, « Mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les voir. Elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête. » Ça vous est-il arrivé de penser que vos péchés étaient si nombreux que vous n'arriviez plus à les compter? Et le cœur vous en manquait tellement. Vos échecs vous troublaient. C'était l'expérience de Jésus. Vous arrive-t-il de vous demander s'il est vraiment possible que vous soyez un jour sauvé? C'était l'expérience de Jésus. Il criait, mais sans réponse. Il demandait à Dieu, mais sans démonstration, si ce n'est le souvenir de l'amour de Dieu. Et vous, lorsque vous ressentez que votre cœur est assombri par vos propres échecs et que vous avez envie de vous abandonner au découragement, qu'a fait Jésus? Il a dit, « Éternel, accours à mon aide. » Au psaume 69, il disait, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. » Il sentait la faim. Pour lui, il n'y avait plus d'issue. Est-ce que vous avez l'impression des fois que pour vous, il n'y a plus d'issue? Il disait, « Je suis plongé dans un bourbier profond où je ne puis prendre pied. Je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots m'ont submergé. » Verset 15, « Tire-moi du bourbier et que je ne m'enfonce pas, que je sois délivré de mes ennemis et des eaux profondes, que le courant des eaux ne me submerge pas, que je ne sois pas englouti par le gouffre et que la fosse ne referme pas sa bouche sur moi. Éternel, réponds-moi, car ta faveur est bonne. Selon la grandeur de tes compassions, tourne-toi vers moi. » Au verset 21, il dit, « L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis languissant. J'ai attendu de la compassion, mais il n'y en a point. Des consolateurs, mais je n'en trouve pas. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. » Et verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Quel était le but de tout ça? Pourquoi a-t-il laissé ses souffrances l'atteindre et lui briser le cœur? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi fais-tu cela, Jésus? Nous voulons demander à Jésus, Seigneur, pourquoi fais-tu ça? Laisse-moi. Je ne suis pas digne de toi. Et pourtant, il s'est donné. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Les humbles le verront et se réjouiront. Votre cœur revivra, vous qui cherchez Dieu. Car l'Éternel écoute les misérables et il ne dédaigne point ses captifs. Votre cœur revivra, vous qui cherchez Dieu. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se fera trouver à nous et notre cœur revivra. Et nous n'aurons pas besoin d'attendre que les sentiments viennent à nous et que les émotions nous submergent, mais nous pouvons dès maintenant nous reposer dans l'assurance que Jésus nous reçoit. Comme c'est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il nous donne un remède et une antidote à la mondanité en ce qu'il vient à nous. Il vient à nous. Il n'est pas resté en haut, mais il est descendu en bas. Il est descendu parce que nous ne pouvions pas monter. Il est venu jusqu'à l'endroit où il ne pouvait plus monter non plus. Et j'ai besoin de cela. N'avez-vous pas besoin de cela, frères et sœurs? J'ai besoin, dans ma faiblesse et mes échecs, de savoir que Jésus a pitié de moi et qu'il est prêt à me prendre dans ses bras. Et il me dit qu'il m'aime. Il dit dans sa foi, alors qu'il souffre et que son cœur est brisé et que les hommes le châtient et qu'il est crucifié et que son cœur lui manque et que l'opprobre s'appuie sur lui comme le plus terrible fardeau que jamais un homme ait été appelé à porter, il dit, les humbles, ils verront ça. Ceux qui sont humbles et qui t'aiment, mon Père, ils verront cela. Et toi, ton cœur revivra, toi qui cherches Dieu. Vous qui cherchez Dieu et à qui la lumière de la joie du salut a si souvent été faible à vos yeux, votre cœur revivra. Mon cœur revivra parce que dans mon agonie, je me souviendrai qu'il a lui-même dit dans le psaume 40, verset 2, « J'ai patiemment attendu l'Éternel et il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Et nous avons la révélation de Jésus dans nos souffrances. Et nous entendons ce nouveau chant qui a été placé sur les lèvres de Jésus parce qu'il avait obtenu la victoire. Et ce chant, il est à nous. Et nous pouvons le chanter par la foi et déclarer qu'aujourd'hui, nous avons mis notre confiance en l'Éternel. Frères et sœurs, vous avez beau vous sentir faible et indigne, et peut-être même éloigné de Jésus, mais rappelons-nous qu'il ne chassera pas ceux qui viennent à lui. Puisse le Seigneur accompagner chacun de nous pendant que nous continuons à méditer sur ces choses et à laisser ces choses avoir un plus grand et plus profond impact sur notre vie personnelle. Que le Seigneur vous aide tous et vous bénisse également. C'est ma prière. Amen.